Haute fréquence.
Le son des religions.
Le son des religions. Le silence, êtes-vous plutôt de ceux qui l'évitent ou qui le recherchent? Faites-vous partie de celles et ceux qui, cet été, ont choisi de passer quelques jours en silence, dans la nature, dans un monastère ou alors en marchant sur les chemins de Compostelle? L'aspiration à plus de silence semble attirer toujours davantage nos contemporains et Catherine Erard, vous vous êtes intéressée de près à cette question à l'occasion de la sortie d'un livre qui connaît un joli succès de librairie.
Oui, ça s'appelle « Ma cure de silence », sous-titre « Si on essayait le calme » et c'est paru aux éditions First. Alors c'est plein de conseils très concrets pour parvenir à vivre des temps de silence, de déconnexion dans le quotidien. Et son auteur est une non-bouddhiste zen. Elle s'appelle Kankyo Tanye, elle est française, elle travaille également comme hypnothérapeute et puis professeur de chant à Strasbourg, puisque dans la tradition zen, la nonne ou le moine zen ont un travail et sont donc salariés. Ça fait 15 ans qu'elle pratique assidûment le zazen, donc le fait d'être assis en silence sur un petit coussin rond et de méditer.
Et donc Catherine, vous avez profité de l'été pour aller la rencontrer.
Oui, je me suis rendue par une chaude, voire très chaude journée de juillet dans un monastère zen à l'ouest de Strasbourg. On était dans les contreforts des Ardennes. Et quand on arrive là-bas, on ne voit qu'une grande maison, tout près d'une forêt. Elle a été aménagée pour recevoir du monde. Il y a un réfectoire, une cuisine, etc. Et puis, un peu plus bas, un temple zen en bois et murs blancs, très dépouillés, comme le veut cette tradition. À côté, un petit jardin zen avec des cailloux, un étang. Enfin, c'est très joli. Un gong, évidemment. Et puis, quelques statues de Bouddha dans le jardin. Et plus bas encore, des logements en bois très simples pour les retraitants. Ce monastère s'appelle Ruimonji, cela veut dire « temple de la porte du dragon de la vieille montagne ».
Donc vous parlez de retraitants, je suppose que vous n'étiez pas la seule visiteuse à ce moment-là.
Non, quand je suis arrivée, il y avait une vingtaine de retraitants, passablement de jeunes, aussi de diverses nationalités, ça parlait anglais. Ils étaient venus vivre une période soit d'une semaine, voire même de trois semaines en silence, sauf au moment du café, et ça tombait plutôt bien puisque c'est le moment auquel j'ai débarqué dans ce monastère. Nous sommes ici dans un petit village d'Alsace, typique Weiterswiller. Et puis j'arrive, il est 1h15, c'est la fin du repas, tout le monde est dehors pour prendre le café. Ici, je m'approche d'une table où se discute pas mal, c'est assez sympa, il y a plutôt des jeunes. Vous êtes en retraite ici?
Oui, pendant trois semaines, oui.
Trois semaines, vous vous appelez comment?
Xavier.
Xavier, c'est la première semaine, c'est la première fois que vous vivez comme ça, une semaine en silence?
En silence, j'ai déjà expérimenté une fois, mais c'était dans le sud de la France, dans un monastère tibétain. Mais ici, on a des périodes de silence, alors que là où j'étais, on n'était pas forcément obligé de respecter un silence, quoi.
Comment vous les vivez, ces moments de silence?
Je pense que vu que dans la vie de tous les jours, on parle beaucoup, on est toujours sollicité par du bruit tout le temps, donc c'est très important d'avoir ces moments de silence, quoi. Ça tranche avec notre vie quotidienne, quoi.
Vous vouliez intervenir?
Ce que je vois ici, en fait, c'est que j'apprends à vider ma tasse.
C'est quoi, vider votre tasse? Comment vous expliquez ça?
En quelque sorte, vider un petit peu le mental de tout ce qu'on peut penser, de toutes ces constructions mentales qui nous traversent sans arrêt. Et le fait de la vider, ça permet de recevoir ce silence, justement.
Et quand on touche ce silence, qu'on arrive à faire taire un peu tout le bruit qui est en soi, qu'est-ce qu'on éprouve?
Un apaisement. Un enracinement, un apaisement dans l'instant.
Vous êtes là pour trois semaines également?
Oui.
Je crois que le temps de parole est bientôt terminé, c'est ça? Il y a zazen après, si j'ai bien compris?
Non.
Ah, j'ai pas bien compris.
Il y a la sieste en silence aussi.
La sieste, mais ça c'est parfait. Alors je vous laisse aller à ce temps de sieste, comme il fait très chaud en plus, je pense que ça va être bénéfique. Kankyo Tanye, est-ce que, par contre, je peux vous suivre?
Oui, bien sûr, on peut aller à l'ombre.
Oui, tout à fait. Kankyo Tanye, est-ce que le silence, c'est uniquement l'absence de bruit?
Ah non, pas du tout. Alors, l'absence de bruit dans notre univers, enfin sur Terre, c'est rarement possible, sauf dans des conditions tout à fait particulières. Mais le silence dont on parle en spiritualité, c'est plutôt le silence intérieur, finalement. Notre perception calme et tranquille de l'atmosphère sonore.
Quand on se tait, qu'on essaye de fermer les yeux, il y a plein de choses qui se déroulent dans notre tête, on a l'impression que ça s'arrête pas.
Oui, c'est souvent la première chose qu'on remarque quand on s'installe en méditation, ou même quand on s'installe sans rien faire, c'est la profusion de pensées. Hein. Que ce soit des images, des sons, des sensations physiques, tout d'un coup on réalise que c'est pas tellement le vide, ni le silence pour le coup, mais il y a plutôt une grande richesse intérieure. Alors richesse parfois, et puis des fois ça nous submerge un petit peu, ou du moins on a cette sensation. Et donc en fait la pratique de Zazen, ça nous invite à observer l'apparition de tout ça, sans combattre. En fait c'est arrêter le combat. C'est assez rare pour le souligner, hein. Généralement on veut toujours modifier, améliorer, changer. Et là c'est on reste dans ce qui est là. Et les pensées, quand elles sont laissées à elles-mêmes, c'est comme si on arrête d'arroser une plante. La graine de tout ça va se flétrir et donc il y a beaucoup moins de pensées qui apparaissent. Cependant, il est important de préciser quand même qu'il y aura toujours des pensées. Sinon, c'est mauvais signe. C'est que le cerveau a arrêté de fonctionner, voilà.
Dans votre livre, ce qui est très intéressant, Ma cure de silence, vous avez vraiment des exemples très pratiques. Entre autres, vous dites dans le cerveau, on a des images qui passent, c'est une manière de calmer un peu ce va-et-vient d'images, c'est de détendre les paupières.
Le mouvement des paupières et le mouvement oculaire est lié à l'apparition des images. Donc, quand on apaise les paupières, tous les muscles des yeux, pas forcément de fixer, mais de laisser le regard disponible, un peu flou comme ça, automatiquement, les images mentales prennent un rythme complètement différent, beaucoup plus tranquille également.
De manière similaire, pour la petite voix qu'on a en nous, les paroles, vous avez deux exemples. Vous parlez d'une télécommande, on peut s'imaginer monter le son ou baisser le son. Et puis, vous parlez aussi de détendre, là aussi on est dans le corps, détendre les muscles de la langue, faire une tête de droupi.
Voilà. Oui, c'est ça. Alors en privé, hein.
Vous pouvez pas me faire la tête de droupi, là.
Là, en radio, je peux vous le faire. On va trop rire, je pense. Alors, le premier exercice qui est cet exercice de télécommande, c'est pas vraiment de la méditation. C'est plutôt un petit outil du quotidien quand on est un peu submergé par les pensées, dans notre activité quotidienne. Et là, on peut prendre quelques instants, s'imaginer avoir une télécommande ou un bouton de volume et faire baisser le son de cette petite voix qui parle dans notre tête. Et par contre, l'aspect de détendre la mâchoire, en fait, ça, on peut aussi l'utiliser dans la pratique de Zazen. C'est-à-dire que quand on détend la mâchoire, comme quand on détend les yeux, on va apaiser la langue. Et donc, les mots se calment également. On a moins tendance à se parler intérieurement.
Est-ce que c'est facile de faire silence ? Intérieurement. Et quand on arrive à ce calme-là, est-ce que c'est forcément une expérience apaisante ou est-ce que parfois ça peut aussi être angoissant ou des peurs ou parce que finalement on passe notre temps à faire en sorte d'éviter un peu le silence quand même.
Qu'est-ce qui fait qu'on s'installe rarement à rien faire ? C'est que quand il n'y a rien, il y a la potentialité, c'est pas toujours le cas, mais la potentialité d'émotions négatives ou de choses pas agréables, de ressentis désagréables. Ça peut être aussi des grandes joies. Hein. Voilà. Pour éviter ça, alors souvent on va lire, on va regarder la télé, etc., avoir des activités.
Est-ce que c'est une des explications qui ferait qu'aujourd'hui on est quand même dans une société, je ne vais pas dire très bruyante, mais quand même, on est tout le temps sollicité depuis le matin. Allez, on a le réveil avec les infos jusqu'au soir quand on se couche.
Oui, je suis c'est vraiment ça. Et puis une surenchère de scoop. Enfin, ça ne s'arrête jamais. C'est comme s'il fallait toujours créer, un message ou un événement qui nous emmène hors de nous-mêmes. Parce que tout ça, c'est des choses qui nous hypnotisent, en fait, qui nous décentrent du corps, de la présence dans le moment, et qui nous emmènent ailleurs en jouant sur le plaisir, en fait. On va nous solliciter des trucs intéressants, etc. Comme si on était des enfants qui avaient tout le temps besoin de jouets. Et nous, dans le bouddhisme, on a envie d'enlever les jouets, on pourrait dire. Trouver du moins des amusements autres.
Quand je vous ai contacté, Kankyo Tanié, pour cette interview, je l'ai fait via Facebook et vous m'avez répondu très rapidement.
Vous êtes sur l'ordi.
Vous êtes une nonne bouddhiste zen, on peut dire, connectée. Et quel regard est-ce que vous portez justement sur le fait qu'on est de plus en plus submergé par ces outils qui sont une aide, mais qui sont aussi, enfin, sitôt qu'un téléphone sonne, pof, on arrête, on regarde, ça nous distrait tout le temps.
Oui, je pense qu'il y a un apprentissage maintenant qui devient nécessaire. C'est-à-dire, c'est comme si on a été plongé dans le grand bain sans savoir nager. On nous a tout d'un coup, dans les années 2000, tout est apparu en même temps, Internet, les réseaux sociaux et tout ça. Et on a improvisé la façon dont on se l'approprie. Et je pense que c'est en train de se faire déjà, mais que passer l'émerveillement du début, maintenant, il y a tout un tas d'apprentissages à faire pour pas devenir prisonnier de ce qui pourrait nous aider finalement. Donc par exemple, réapprendre à déconnecter. Moi j'aime bien tous ces outils-là parce que je trouve qu'il y a plein d'avantages. Ça a relié des personnes, ça a permis à des gens de se sentir moins seuls, ça a créé du lien en fait. Mais d'un autre côté, il y a aussi une mise en scène de la vie sur les réseaux sociaux. Avec le paradoxe que c'est souvent pas la vie réelle, quoi.
Kankyo Tanié, je ne sais pas si dans votre livre vous parlez des chevaux dont vous vous occupez. Est-ce que ça serait possible qu'on aille les voir, ces chevaux qui ne parlent pas ?
Ils parlent pas du tout. Enfin, ils font des petits bruits. Ils font de temps en temps, ouais. Mais ils sont assez silencieux.
Alors on va bouger, on va se lever, quitter cette forêt. Alors, là, on est en train de descendre à côté du monastère dans un champ. Mm-hmm. Et il y a des chevaux, c'est ça ?
Oui, c'est des chevaux islandais, pour tout dire.
Alors là, on ne les voit pas.
Ils sont à l'ombre.
Ils sont à l'ombre, ils sont malins parce que là, il fait chaud. Hein.
Ils sont près de l'abreuvoir. Ouais. Et puis, voilà, il y a un petit souffle d'air souvent vers le bas. Là, c'est bien ombragé.
Et les voilà.
Voilà mon prince.
D'ailleurs, il vient vers vous.
Bah oui.
Il est blanc, magnifique, et le voilà qui approche. Bonjour, Astur. Hein.
Astur, ça veut dire la suprématie. C'est donc un ancien étalon, et c'est le papa de tous les autres. Donc il a passé sa vie à protéger la harde, et voilà. Alors là, il n'y en a que 4, mais il a eu 15 enfants, je pense. Hein. Voilà, et là, il est à la retraite, et je le chouchoute.
Qu'est-ce qu'ils vous ont appris ?
Ils m'ont appris l'attention. C'est-à-dire, comme les chevaux ne parlent pas et qu'ils expriment tout par le langage corporel, j'ai appris vraiment à être très très attentive, je dirais aux aguets, comme dans une jungle, pour percevoir ce qu'ils sont en train d'exprimer. De comprendre leur corps, en fait.
Avec le bouddhisme, la tradition zen, peut-être par rapport aux spiritualités de l'Occident, il y a une reconnexion avec... alors, il me souffle dessus, il se pose sur moi. Une reconnexion, alors là, on y est vraiment, avec la nature. Moi, j'ai les pieds dans le caca. Non, mais quand même, avec le corps, avec... Oui, c'est du journalisme de terrain. Avec la nature, avec le corps, avec... et ça... Est-ce qu'en Occident, c'est quelque chose qui était passé un petit peu au second plan ? Alors, je fais le tour d'Astur.
Oui, oui, alors effectivement, les animaux, c'est un corps, c'est une puissance. Vous voyez, un animal comme ça qui fait 400-450 kilos, il se meuve d'une certaine façon, etc. Et ils sont pleinement dans leurs gestes. Et effectivement, en Occident, on a perdu ça. Il y a eu cette idée pendant longtemps que l'esprit était supérieur au corps. Dans le bouddhisme, il n'y a pas cette dualité. C'est en ressentant le corps, en étant dans le corps, qu'on trouve le moment présent. Donc pour nous, c'est pas quelque chose de d'honteux ou d'inférieur, mais plutôt c'est vraiment un trésor spirituel.
Vous-même, vous êtes non-bouddhiste, mais vous avez un compagnon.
Oui, j'ai un compagnon depuis plusieurs années, une dizaine d'années. Donc s'il n'y a pas pour nous d'incompatibilité religieuse, enfin on pratique notre spiritualité dans la vie de couple. Voilà.
Il est également moine ?
Oui, il est également pratiquant depuis de très longues années. Et puis, voilà, on explore ensemble. Alors, c'est sympa d'être sur la même voie spirituelle, comme ça on a plein de choses à partager. Et puis, on apprend ensemble à gérer nos émotions de couple.
C'est facile ?
C'est avec lui que je m'engueule le plus férocement, sachez-le.
Votre livre « Kankyo Tanye, ma cure de silence » marche bien, on peut le dire. Il y a des demandes de traduction. Quel regard vous portez là-dessus, sur cet intérêt, peut-être pour le silence de nos contemporains ? Qu'est-ce que ça évoque pour vous ?
C'est un grand plaisir parce que c'est bon signe, je pense, pour la génération qui arrive. Tout à l'heure, vous avez interviewé pas mal de jeunes et on reçoit beaucoup de jeunes. Il y a un grand intérêt pour ces thèmes, silence, méditation, silence intérieur. Donc moi, je suis très optimiste sur la génération qui arrive.
Les jeunes qui sont ici débranchent leur téléphone. Comment ça se passe ?
Oui, en fait, ils reçoivent une feuille en arrivant avec certaines consignes ou règles de fonctionnement du monastère, et ils sont prévenus avant. Dans tout le monastère, on n'a pas le droit d'utiliser le téléphone, il doit être éteint. Après, ils ont bien sûr la possibilité d'aller téléphoner plus loin si nécessaire. Mais je crois que ça leur fait du bien, enfin, ils jouent le jeu très facilement. Hein.
Kankyo Tanye, je vous propose qu'on laisse les chevaux, hein, qui décidément vous aiment bien. Et puis qu'on aille peut-être, alors du coup, se diriger vers le temple.
Allons-y.
Alors, je vous suis.
Suivi, hein, je vous dis tout de suite, qu'il va penser que je
remets. Alors, Efstur nous suit.
À travers les champs. Vers le bas, ce serait mieux qu'on ne parle pas trop, parce qu'il y a des gens qui font la sieste.
Mais après, on peut remonter. Un peu plus haut dans le monastère, là, il n'y aura personne.
Alors, on va être silencieux. Ouais. Et là, on retrouve un petit chemin en gravier.
Le dojo, la salle de méditation. On pratique zazen, donc face au mur, pour aider justement à cet apaisement des yeux dont on parlait précédemment.
Alors on marche ici sur un petit ponton en bois. Côté de nous, il y a un jardin typiquement zen, avec des cailloux.
Voilà. La simplicité.
Il faut enlever nos chaussures ici. On enlève nos chaussures. On entre. Alors devant nous, il y a un autel, et de chaque côté, des bancs avec des coussins pour méditer. Il y a un grand coussin carré au centre. On imagine que c'est là que se met la personne qui enseigne ou qui dirige la cérémonie.
Oui, qui va faire en fait au début trois prosternations. Après, il enseigne sur un espace à droite.
Vous passez combien d'heures comme ça, ou combien peut-être de minutes chaque jour
Alors on a 1h30 le matin et 1h15 le soir. Donc ça c'est pour la vie quotidienne. Et sinon on a plusieurs fois par mois, donc deux fois par mois en général, une période qu'on appelle Seishin. Donc ça c'est les méditations, les retraites plus intensives, où on a... 4 sessions de pratique par jour, de 1h, 1h30.
Donc entre 4 et 6 heures.
Mmh. À ce moment-là, oui. Hein. Mais bon, avec à chaque fois beaucoup de débutants qui viennent, et c'est tout à fait accessible. Hein. Voilà.
On vous sent très accueillante, très ouverte, facile d'accès. Mmh. C'était un tempérament que vous aviez déjà. Qu'est-ce que vous diriez que ça a changé dans votre relation à vous-même, aux autres?
Alors, beaucoup de choses déjà. Moi, je suis arrivée ici assez jeune, vers 26 ans, et avec pas mal de débordements émotionnels, de choses très inaccomplies, beaucoup de... Enfin, la vie en communauté aussi, le fait d'être tout le temps avec les autres, ça révèle des émotions que des fois on aurait envie de pas regarder, etc. Donc j'ai, parallèlement à la pratique de la méditation, j'ai aussi fait différentes démarches thérapeutiques, de la thérapie en fait, notamment avec l'hypnose que je pratique par ailleurs. Et en fait, ces différents aspects, ça a enlevé la peur de l'autre. Ça l'a beaucoup atténué. Il y a encore des petits, de temps en temps, mais... J'ai eu l'impression, à mesure que les années passaient, que les émotions négatives se libéraient comme des pelures d'oignons, comme ça qu'on pèle, et que derrière, effectivement, il y a l'accueil illimité de l'autre. Comme moi, j'ai moins besoin de me défendre ou bien de prouver des choses comme ça, du coup, je peux vraiment regarder l'autre. Enfin, et c'est très agréable à vivre en même temps. Il y a une émotion... cette fois-ci très personnelle, qui est de la joie.
Ça va de pair avec une acceptation profonde de ce que vous êtes, dans ombre et lumière.
Oui, voilà. Et ça, c'était aussi une très grande découverte, d'accepter ses failles ou les côtés inaccomplis, les colères, les choses comme ça. C'est très soulageant, enfin, ça soulage beaucoup. Et aussi, ça permet la rencontre avec l'autre, avec une sorte de communauté d'inaccomplissement, je pourrais dire. Enfin, on se comprend, quoi.
On n'est pas parfait, l'autre non plus.
Voilà. Du coup, ça donne beaucoup de tolérance, de joie de la rencontre, quoi.
On est ici dans une culture judéo-chrétienne. Est-ce que, par votre pratique, vous avez l'impression que vous touchez aussi une forme de transcendance?
Oui, moi, c'est ce qui me porte chaque jour, en fait. Si la pratique du bouddhisme et de la méditation, c'était seulement une démarche de développement personnel, je trouverais pas... Enfin, il manquerait quelque chose, là, pour le coup. Mais chaque jour, en fait, la quête, c'est vraiment la compréhension ou l'intuition ou la perception corporelle, cette fois-ci, de cette immense circulation d'énergie qu'il y a tout le temps, en permanence. On pourrait dire on se connecte au mouvement de l'univers. On se connecte à des présences aussi. Alors là, je parle en mon nom, je ne vais pas mettre le bouddhisme en entier là-dedans, mais à des présences, à des intuitions, des choses comme ça. Et ça donne... comme si tout à coup, la réalité qu'on voit, elle devient beaucoup plus lumineuse, scintillante. Voilà.
Une perception de vous plus vaste?
Oui, on peut dire ça. Et en fait, c'est plutôt même que le « vous » ou bien le « soi » se mélange avec l'ensemble. Encore une fois, il y a peut-être cette idée de quand il y a moins de choses à défendre, on peut se laisser aller dans le mouvement du monde. Et c'est très doux, c'est très doux.
Chant des retraitants du monastère de Rumonji à Weitzwiller, près de Strasbourg, où vous avez rencontré Catherine Kankyo-Tanier, nonne bouddhiste zen. Alors, juste une petite question, est-ce que ce type de lieu existe aussi en Suisse ?
Alors oui, il existe un monastère qui est rattaché à la même lignée, donc l'école Zen Soto de la lignée de Taisen Deshimaru. Taisen Deshimaru, c'est le nom du maître Zen japonais qui est venu amener le Zen en Europe il y a grosso modo une cinquantaine d'années. Ce monastère se trouve dans le canton de Neuchâtel, au Cerneux-Péquignot, aux portes de la vallée de la Brévine.
Bon, cela dit, on peut également vivre des temps de silence dans des monastères chrétiens, par
Alors,
exemple.
Alors oui, tout à fait, on peut suivre les offices, on peut également, si on le souhaite, parler avec un religieux ou une religieuse. Souvent, d'ailleurs, les monastères chrétiens ont cette tradition d'avoir une hôtellerie. Donc c'est tout à fait propice également pour vivre des temps de silence, y compris ici en Suisse romande.
Merci Catherine pour ce sujet. Bon, on comprend qu'il ne reste plus qu'à aménager l'agenda pour trouver des plages possibles pour le silence.
Eh oui, il n'y a plus qu'à. Mais franchement, le livre de Kankyo Tanier, Ma cure de silence, regorge de conseils très pratiques, très utiles et simples à mettre en pratique.
Et bien sûr, si vous souhaitez réécouter ce